Bonjour tout le monde, bienvenue. Il est 3 heures, donc je pense que c'est le temps de commencer. Je voudrais commencer d'abord, comme je l'ai fait la semaine dernière, de remercier l'Assemblée des professeurs au Collège de France, surtout M. le professeur Yon Shid, de l'invitation de venir ici pour présenter mes recherches. J'en suis très heureux et très honoré. Et la semaine dernière, j'ai essayé de montrer en quoi consiste la théorie de connaissance rhétorique que j'appelle la doxologie, et que je propose comme une autre manière d'articuler et de comprendre nos connaissances humaines. Et j'ai parlé de la doxa. Donc, ce qu'on prend pour donné, ce qu'on prend pour évident dans un groupe, dans une culture, dans une discipline scientifique, ainsi que de l'épistémé. Donc, la distinction vient de Platon, évidemment. L'épistémé, ça signifie la connaissance qui est censée de nous donner accès au monde tel qu'il est, indépendamment de nous. J'ai essayé de montrer, avec une lecture de Protagoras, son dicton de l'homme comme mesure de toute chose, qu'en fait, il n'y a que de la connaissance doxique. Donc, la distinction entre doxa et épistémé, il faut le comprendre à partir d'une situation doxique, et le comprendre à l'intérieur d'une situation doxique où on a fait cette distinction entre doxa et épistémé. Mais c'est même l'épistémé est donc fondé dans la doxa, ce que je voudrais dire. Et donc, j'ai proposé la doxologie comme une alternative aux épistémologies traditionnelles. Et puis, j'ai tenté avec Ludwig Fleck, le microbiologiste, le théoricien de science, polonais, qui a écrit un livre début des années 30 sur la genèse et le développement d'une phase scientifique. Et surtout, je parlais de ces concepts de style de pensée, style de collectif de pensée, style de pensée et connexion actif et passif. Je me suis demandé comment est-ce qu'on peut mobiliser la pensée de Fleck pour affiner la doxologie. Et puis j'ai aussi tenté, comme je suis professeur de rhétorique de l'université d'Uppsala en Suède, j'ai tenté de montrer comment et en quoi la doxologie peut être vue comme un élargissement de la rhétorique. Surtout la rhétorique argumentative. Donc, j'ai essayé d'élargir. J'essaye toujours. En fait, c'est mon projet actuel de recherche d'élargir la notion de la rhétorique pour y inclure la notion de sens social et aussi la production de sens social envers une sorte de rhétorico-philosophico-anthropologico. Machin de choses. J'en sais pas très bien encore comment je vais l'appeler. Mais ça, en tout cas, c'est à peu près ce que j'ai dit la semaine dernière. Et aujourd'hui, je vais, comme vous le savez bien, vous proposer une lecture critique et doxologique de quelques aspects de la naissance et du développement de l'étude de l'art pariétal du paléolithique supérieur. Et donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je commence par une réflexion sur les similarités entre textes et images. Et puis, je vais vous donner quelques éléments seulement de l'histoire de la naissance de la discipline en question. Et puis, surtout focalisant sur les problèmes de perception qui s'y trouvent. Puis, je vais parler très court des efforts d'interprétation de l'art pariétal paléolithique qui ont été présentés de 1901 à nos jours. Et comme conclusion, je vais tenter d'articuler ce qu'une approche doxologique peut donner. Et si on a le temps, je pourrais aussi vous dire quelques mots sur où on est maintenant un peu avec l'actualité dans la discipline aujourd'hui. Mais ça, je laisse à côté. Si on a le temps, on pourra le faire, si vous voulez bien. Donc, c'est comme ça que ça va se passer aujourd'hui. Et pour introduire mon sujet, mon thème, pour introduire à situer, c'est important aussi l'affaire de situer, mon thème principal aujourd'hui, je vous propose donc de commencer par quelques réflexions sur texte et images. Et notamment sur deux remarques sur l'importance du contexte pour notre fabrication du sens. Donc d'abord, les textes. Nous connaissons tous l'importance du contexte dans l'effort de déterminer l'identité et le sens d'un texte. C'est le contexte qui donne les conditions nécessaires pour que l'on puisse en déterminer le genre, le style, la portée, bref, la signification du texte. Et voici un exemple très simple. Vous voyez là, les lettres C, H, A, T, en tant qu'exemple, là, et puis en tant que deux petits textes de l'autre côté, donc le chat ou to chat. Et vous voyez donc que la même combinaison alphabétique, des lettres alphabétiques, peut évidemment figurer comme deux textes, un texte français et un texte anglais, avec des interprétations très différentes. Et on comprend, comme l'aurait dit le philosophe américain Nelson Goodman, qu'un texte, c'est toujours une inscription qui fonctionne dans une langue. Donc ce qu'on voit ici, c'est donc deux inscriptions dans deux langues différentes. Le sens, la définition, etc., tout dépend du contexte ici. Donc dans ce cas, de la langue que l'on choisit, anglais ou français. Mais bien sûr, on ne peut pas choisir n'importe quel contexte. Par exemple, CHT ne fonctionne pas comme un petit texte en suédois. Donc, il faut bien trouver le bon contexte pour faire fonctionner le petit texte. Mais qu'en est-il des images? Ne sont-elles pas plus évidentes? Au moins parfois, si elles ne sont pas trop compliquées. Ou si elles sont figuratives, ne portent-elles pas, pour ainsi dire, leur contexte, et donc leur interprétation, ainsi que leur signification et le sens avec elles? Voici un autre exemple très, très simple, et très bien connu aussi. Si vous connaissez la philosophie de Ludwig Wittgenstein, vous savez bien que c'est le fameux Duck Rabbit qu'il a utilisé dans ses investigations. Mais je ne veux pas parler de Wittgenstein aujourd'hui, je veux seulement utiliser cette figure très simple. Parce que ceci est une image simple et figurative, n'est-ce pas? Mais comment l'interpréter? Est-ce un lapin? Est-ce un canard? Les deux en même temps? Peut-être. Ce que je voudrais montrer, c'est que ni le lapin, ni le canard, ni les deux sont là, dans la figure. Ils sont une fonction du contexte que vous apportez vous-même. Si vous n'avez pas le concept de lapin, vous ne voyez qu'un canard, et vice-versa. Vous voyez tous, et le lapin et le canard ici, n'est-ce pas? Parce que ça... Il faut savoir ce qu'appelle Wittgenstein le seeing as, donc de tourner la figure qui regarde soit comme ça, soit comme ça. Donc voir une image est donc une question d'organiser et de conceptualiser ses sensations perceptuelles, les inscrire dans une forme symbolique ou une autre. Analogue à comment un texte est inscrit dans un langage. N'est-ce pas? Et en plus, les lignes que nous appelons la figure du canard-lapin, que vous voyez là, ne sont que des lignes. Mais on les voit, on les lit comme une figure. Comme une figure du canard lapin. Et lire comme voir, c'est quelque chose que l'on apprend. Ce n'est pas un don naturel. Le fait qu'on peut voir ces lignes comme un canard lapin est peut-être un trait qui est commun à tous les hommes, universel dans ce sens-là. Une compétence accessible à chaque être humain, mais néanmoins une compétence qu'il faut apprendre à pratiquer. Et que nous ne soyons pas normalement, et comme le remarque aussi Ludwig Fleck, conscients de l'effort de voir une figure comme une figure de quelque chose, comme un ex, ça ne change rien. Ça nous montre seulement que nos inscriptions sont souvent inconscientes et qu'ils ont une tendance à se présenter comme des perceptions d'une réalité donnée existant là, hors de nous, sans qu'on n'y fasse rien. Donc, on peut dire que l'on ne voit rien qui ne soit déjà une création de et par nos propres capacités de voir et penser. Et comme le dit si bien Nelson Goodman encore, la nature est un produit d'art et du discours. Et par conséquent, le réalisme relatif, déterminé par le système de représentation qui sert de norme à une culture ou à une personne donnée à un moment donné. Et tout ceci dit comme une sorte de préalable à mes réflexions doxologiques sur ce qu'on voit, ce qu'on a vu, et surtout ce qu'on n'a pas vu dans les grottes paléolithiques. Quand j'ai commencé mon projet doxologique, j'ai très vite éprouvé un besoin de me concrétiser, d'avoir un exemple pour travailler avec. Donc, sinon, mon projet serait inévitablement perdu dans une brouillard métaphysique, je pense. Et par conséquent, j'ai choisi un domaine dans les sciences humaines contemporaines qui me paraît, au niveau de la construction de son objet, intéressant et assez explicite quant au traitement des questions épistémologiques aussi. Donc, les recherches sur l'art pariétal de l'époque de paléolithique supérieure. Et ce domaine fait preuve des problèmes particulièrement complexes concernant ses pratiques et ses théories scientifiques, ainsi qu'autour de la construction du sens, dans les grottes comme dans la recherche sur les grottes. Et pour m'expliquer, pour devenir un peu plus concrète que ça, je vais vous donner un aperçu critique de l'histoire des recherches sur la signification des images dans les grottes. Et tout commence en 1879, quand ce Don Marcelino Sanz de Sotola, un espagnol, un archéologue amateur, commence à fouiller dans la bouche de la grotte qui est depuis connue comme la grotte d'Altamira. Et son attention est focalisée sur le fait de dégager l'entrée de la bouche de la grotte. Et il recherche des restes d'activité humaine, comme des foyers, des outils ou des restes de toutes sortes. Et ce monsieur, il a une petite fille, une jeune Maria, qui l'amène à la fouille. Et comme font les enfants, se fatigue bientôt de regarder son père fouiller. Et puis, elle est donnée une lampe, elle se rend dans la grotte pour y jouer. Et puis, il entend, après quelques minutes, un jour, qu'elle crie au fond de la grotte, qu'elle crie « Mira papa, bueyes !»« Regarde papa, des bœufs !» Et c'est donc les fameux bisons de plafond de la grotte d'Altamira. voyez, là. On vous voyait bien, vous voulez qu'on baisse la lumière? Non, c'est bon. Merci. Et donc, quand monsieur de Sautola voit ce qu'a déjà vu sa fille, donc les Bessons, il voit aussi qu'ils sont le même style que les décorations qu'il connaît depuis longtemps, qui se trouvent sur les objets portables et donc qui est connu depuis des années dans l'archéologie à l'époque. Il voit que c'est le même style de représentation sur les objets portables comme ce qu'il voit donc au plafond d'Altamira. Et ce qu'il fait en ce moment-là, il crée un nouveau concept en archéologie, un nouveau modèle d'organiser la perception de ce qu'on voit dans les grottes. Il crée le concept l'art pariétal des grottes paléolithiques. Donc, comme vous le savez bien peut-être, on fait une distinction entre art pariétal et art mobilier dans l'archéologie. Art mobilier, tout ce qui se bouge, tout ce qu'on peut porter. Pariétal, c'est tout ce qui est fixé sur place, soit sur le plafond, des murs, ou même le sol d'une grotte ou un abri. Et donc, l'année après, donc, Sans de Sautola se décide de faire une relève de ce Besson et décide en 1880 de publier sa récente découverte des peintures du plafond de la grotte au congrès d'anthropologie de Lisbonne. Et en fait, l'ancienneté des peintures décrites par Sans de Sautola ont immédiatement été remises en question. Et après un débat passionné, Émile Cartaillac, l'une des figures éminentes des études préhistoriques en France, envoya Édouard Harlay à examiner la grotte. Et les raisons avancées par Harlay en vue de justifier sa conclusion valent la peine d'être mentionnées ici. C'est ce qu'écrit M. Harlay. Je crois avoir démontré que les belles peintures du plafond sont fort récentes. Il semble probable qu'elles ont été faites dans l'intervalle des deux premières visites de M. de Sautola, de 1875 à 1879. Toutes les traces de fumée provenant de foyers ont disparu. Pourquoi les peintures seraient-elles restées? La lumière naturelle ne pénètre pas jusqu'à l'endroit des peintures. Leur réalisation exige un certain temps. Elles n'ont donc pu être faites qu'à une époque où existait un éclairage artificiel perfectionné. Mais surtout, à la différence de la biche très réaliste, les aurochs que l'auteur s'est attaché à peindre ne présentent que trop partiellement les caractères de cet animal. Il ne laissa donc jamais vie. Je trouve que les arguments avancés par Harlay sont très intéressants à plusieurs niveaux. Donc, d'abord parce que ça représente les préjugés scientifiques de son temps et donc nous donne un aperçu du style de pensée de ce collectif de penseurs qui étaient à l'époque les archéologues qui s'intéressaient à l'art préhistorique. Et aussi cet argument autour du réalisme, qu'il faut avoir vu quelque chose pour pouvoir représenter en réalisme. Donc tout ce qui n'est pas réaliste, donc, vous suivez que c'est un peu bizarre comme conclusion, n'est-ce pas? Mais j'en parle dans mon livre que j'écris sur tout cela, mais je laisse à côté maintenant parce qu'on n'a pas vraiment le temps pour ça. Et donc, le compte-rendu, c'est encore d'Altamira, un autre Besson. Le compte-rendu d'Harlay régla la question pour ce qui est de l'opinion scientifique dans les années 1880. Et il a fallu attendre jusqu'au 1901, donc plus que 20 ans, avant que ne soit reconnu l'art pariétal paléolithique. Mais pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps? Donc, on peut avancer plusieurs explications. Je vais vous présenter d'abord deux, en fait, ici. L'archéologue Jean Bassan a par exemple soutenu que une des raisons fut le fait de se rendre compte que l'existence réelle des œuvres sophistiquées provenant d'une période aussi ancienne affaiblissait la théorie de l'évolution. Donc le darwinisme était mis en cause par ces peintures. Et faisant référence du compte-rendu d'Harley, Bazan dit qu'il est significatif pour l'atmosphère intellectuelle de l'époque que les premières publications de reproductions de peintures paléolithiques visaient seulement à montrer qu'il s'agit des faux. Donc on a montré, comme vous voyez, le bison, là, il est bien fait, bien travaillé, bien formé, bien coloré, tout ça. Ils ont montré ça en disant, c'est impossible que des gens de cette époque pouvaient faire des choses aussi sophistiquées, aussi beaux. Donc ça nous renvoie encore une fois au doxa à l'époque. Un autre archéologue, Richard Bradley, qui a écrit sur les controverses en rapport avec le plafond d'Altamira, répond une idée semblable et dit que le problème des archéologues français, était que les peintures sophistiquées qui apparaissaient dans les grottes étaient apparemment associées à des restes des espèces éteintes. Cela violait le principe de l'évolution sociale, car l'art des cavernes affichait une ressemblance troublante avec les conventions admises pour les peintures du XIXe siècle. C'est la raison pour laquelle il fut difficile de tenir compte de ces découvertes dans une compréhension plus large du passé. Donc il y en a deux arguments. Un argument qui met en cause la théorie évolutionniste, et puis l'autre, parce que ça ressemble trop à nous, donc il faut avoir une distinction, ça ne peut pas être la même chose. Et d'un point de vue doxologique, Bradley a fait à ce propos une observation intéressante. Les savants français, dit-il, qui avaient adopté un modèle évolutionniste, étaient beaucoup plus réticents à l'idée d'accepter que les peintures provenaient véritablement du paléolithique que les savants espagnols, qui étaient pour la plupart des catholiques, donc des croyants. Les savants espagnols qui avaient accepté la vérité littérale du livre de la Genèse. Pour ces derniers, les images ne représentaient aucun danger pour la doxa qui avait leur faveur. Ce ne fut donc pas avant le début du XXe siècle, une fois que certaines découvertes décisives de l'art pariétal dans des grottes furent authentifiées comme paléolithiques. Je parle là de Grotte de la Moutte en 1895, des combarelles et de fonds de gomme, deux grottes très connues, qui ont été découvertes dans la même semaine en 1901. Ce n'est qu'après ces découvertes-là que la communauté scientifique, dans son ensemble, accepta le fait que les peintures dataient effectivement de la période paléolithique. Et en 1902, Émile Cartaillac a publié un mea culpa à propos de la peinture d'Altamira. L'honneur scientifique de Sainz de Sautola fut finalement rétabli, bien que de façon posthume, évidemment. Et la nouvelle discipline de l'art des cavernes fut fondée dans sa forme par les écrits de l'abbé Henri Breuil, qui est un des premiers et plus importants préhistoriens ici en France. Donc, à partir de ce moment-là, la discipline se coule dans le développement général des sciences humaines et sociales, et se fait le reflet de la plupart, sinon de toutes leurs modes et leurs méthodes. Mais avant de quitter ce premier moment de cette discipline, je voudrais revenir sur deux questions qui me troublent, qui m'intéressent. C'est d'abord deux phénomènes intrigants ici. Tout d'abord, on a le fait que même la découverte de Saint-Sulpice-là fut relativement tardive, étant donné que nombre parmi les grottes ornées étaient connues et avaient été visitées depuis longtemps. Donc, il n'y avait pas une connaissance totale des grottes peintes. Et en France, surtout dans les Pyrénées, c'était quand même connu. Donc, et la deuxième chose qui m'intrigue, c'est le fait que les découvertes de Saint-Sulpice-là furent si difficiles à admettre, malgré le fait donc, que les gravures et les peintures sur les objets paléolithiques portables, donc l'art portable, donc je parlais il y a un instant, étaient connues au moins depuis 1852 et officiellement reconnues, donc consacrées comme objet scientifique à l'intérieur de l'anthropologie et l'archéologie de l'époque, vers 1860, comme ça. Donc, l'explication avancée par Bazin et Bradley me semble correcte. Cependant, il n'y a plus à dire à ce sujet. Bazin avait tout à fait raison de focaliser sur les aspects sociaux de la création des faits scientifiques. Mais ce faisant, il laisse à côté une question cruciale qui est celle de la perception. Et de façon plus importante encore, les multiples façons dont la perception et les facteurs sociaux sont entremêlés. Il y a ici, sans aucun doute, un problème de perception qui se trouve impliqué dans ces faits, qui rappelle plutôt certains aspects de contextualisation, ainsi que du cas du canard lapin, dont je viens de parler au début de mon discours. Parce que la question de l'authenticité de l'art pariétal des cavernes n'est pas seulement précédée par la question de ce que l'on pourrait voir dans les grottes, mais encore plus par ce que l'on peut voir dans les grottes si on n'a pas eu au préalable le concept de l'art pariétal des cavernes. Donc ce que je veux dire, c'est que pour voir ce qu'on voit, il faut avoir une préparation conceptuelle pour qu'on puisse organiser ce qu'on voit selon une certaine ou l'inscrire plutôt donc dans une forme symbolique, comme je viens de montrer pour les textes et pour le canard lapin. Et prenons donc la grotte de Niaud comme exemple, grotte de Niaud dans les Pyrénées. Et cette grotte est bien connue depuis longtemps. Et on a même des graffitis qui remontent jusqu'au 1602 qui se trouvent dans la grotte. Des graffitis authentiques, des gens qui ont laissé leur nom et leur date sur le mur. Heureusement, pas sur les peintures, mais à côté. Et même au début du 19e siècle, la grotte fut dépouillée des stalactites et des stalagmites qui étaient vendues aux touristes de l'époque. Et les guides locaux qui amenaient les pilleurs dans la grotte avaient à l'évidence remarqué les peintures de ce qui est aujourd'hui le fameux salon noir que vous voyez ici. Donc, et les guides appelaient ce salon noir, il s'appelait le musée. Donc on comprend bien qu'ils ont vu quelque chose dans la grotte, mais il est peu probable qu'ils pensaient que c'était des peintures préhistoriques ou antédiluviennes ou en quelque sorte. Ils sont notés un peu comme Maria de Sotola, ils sont notés que ouais, il y a de la peinture aussi. Il y a quelque chose à voir. Et à une date aussi tardive que 1866, donc 600 après que l'art portable a été consacré comme objet correct de la science archéologique de l'époque, le docteur Félix Garrigou, érudit local et préhistorien, il était incapable de reconnaître le caractère préhistorique de ces peintures. Il visite la grotte Néo à deux reprises et il écrit dans son carnet de notes ceci. April 7, 1866, Tarascon à Alia, grotte Néo. La grotte en couloir de 1800 mètres jusqu'au lac, sable. Couloir secondaire à gauche et à droite, grand couloir terminé par une rotonde. Parois avec drôle de dessin, bœuf et chevaux, et quatre marques d'interrogation. Puis, deux mois après, il rend visite à la grotte de nouveau et il écrit ceci. Juin 16, 1866, grotte grande de Néo. Dans la grande grotte de Néo, parcourue avec le guide épileptique, on arrive au lac du fond qui empêche de passer. Sable partout, très abondant. En venant du lac vers l'entrée, on trouve les couloirs secondaires. À gauche, grand couloir déjà visité à pente ascendante, est terminé par une grande salle ronde portant drôle de dessin. Qu'est-ce que cela? Amateur artiste ayant dessiné des animaux? Pourquoi? Déjà vu avant. Et puis, il oublia tout à leur propos jusqu'à ce qu'il soit officiellement découvert en 1906. Donc, beaucoup plus tard. C'est une autre image de la grotte Néo ici. La spécialiste de l'art des cavernes, Annette Lomming Emperer, a fait la même observation. Même si le matériau présenté ici est assurément pauvre, l'exemple de l'amateur archéologue Sans de Satola et sa fille, la non-acceptance des trouvailles en Altamira, le fait que Dr. Garrigou ne voit pas ce qu'il voit, même si ce matériel n'est pas énorme, il pourrait néanmoins donner l'impression que le fait d'être un observateur scientifique entraîné rendait plus difficile de percevoir ce qu'il voyait vraiment que ce que tout un chacun voyait sur le mur de grotte. Donc, ce que je veux dire là, c'est que la formation de M. Garrigou l'a peut-être empêché de voir ce qu'il y avait devant ses yeux à cause du manque de concepts consacrés de sa discipline. Tandis que les amateurs, les enfants ou les guides qui n'avaient pas ces constraints-là ont vu ce qu'ils ont vu, c'est-à-dire des images, mais sans avoir une idée scientifique là-dessus. Donc c'est un peu ça que je veux dire là. Et la spécialiste de l'art des cavernes, Annette Lomming Emperer, a fait la même observation. Elle écrit avec un certain étonnement à propos du docteur Garrigou et les images de Néo. Elle écrit ceci. Ces peintures, et particulièrement celles de la Salon Noir, ne peuvent échapper aux visiteurs, aussi peu informés soient-ils. Mais le docteur Garrigou se contente d'inscrire dans son carnet qu'il y a des dessins sur le mur, que peuvent-ils bien être ? Les scientifiques semblent donc avoir eu des difficultés tout d'abord à voir et ensuite à conceptualiser les dessins sur les parois des grottes. Ou bien, comme le dit John Clegg, c'est un spécialiste australien de rock art, donc l'art sur les rochers, rock art, c'est le terme qui est utilisé, je pense. Donc, John Clegg, en utilisant l'exemple des visites guidées des peintures préhistoriques sur les rochers australiens, il écrit ceci. Sans savoir à quoi s'attendre, il est à peu près impossible de voir ce qu'il y a. Une certaine familiarité avec le style des images est nécessaire pour les voir. Un guide doit souvent indiquer la forme avec force détail avant qu'un spectateur naïf puisse voir quoi que ce soit du kangourou. Une fois que les spectateurs ont braqué leurs yeux sur, donc c'est une traduction de l'expression anglaise « got their eye in ». « Get your eye in for something ». Donc, ils savent à quoi s'attendre et deviennent rapidement des experts dans la découverte des formes qu'on ne leur a pas indiquées. Ce processus consistant à braquer son œil sûr implique une familiarité avec des marques naturelles usuelles sur les rochers et une compréhension des conventions de représentationnelles qui ont été utilisées. Donc, quoi qu'il en soit, on pourrait soutenir que dans l'histoire de la découverte de l'art des cavernes, les scientifiques sont, pour ainsi dire, les naïfs qui ont besoin d'apprendre ce qu'ils doivent chercher, tandis que les guides locaux et les enfants, qui apparemment ne souffrent pas des préjugés perceptifs si ancrés, comme je viens de le dire, semblent plus capables de percevoir les images comme des images, tout court. On voit ici un bel exemple de force du collectif de pensée d'une discipline, ainsi que du style de pensée d'une discipline et de son doxa. Et je vous rappelle les mots de Ludwig Fleck que j'ai cités il y a une semaine ici, que le style de pensée devient une contrainte pour le saint individu. Il détermine ce qui ne peut pas être autrement. Donc, si on est vraiment formé, je pense que l'expression pour éducation ici en France, formation, vraiment trouve sa ampleur ici. Si on est formé par une discipline, on est aussi formé pour voir ne pas tout ce qu'il y a à voir, mais ce qu'on est censé de voir comme un objet scientifique ou non. Et donc, tout le travail des disciplines scientifiques, c'est de élargir cette champ de vision, champ de perception, si vous voulez bien. Et donc, j'arrive maintenant à mon histoire très rapide de ce qui s'est passé après 1901 au niveau de la découverte des images dans les grottes. Et je vais illustrer ce parcours par des images qui viennent de la plupart de la grotte Chauvet, que vous connaissez tous, je pense. La grotte Chauvet qui a été découverte en 95. Oui, je pense. Et qui est la grotte la plus ancienne qu'on connaît en France en ce moment. Donc, les peintures datent autour de 30 000 ans, before present, donc avant le présent. Et avant le présent, on est toujours compté à partir de 1950, à cause des raisons internes de la discipline archéologique pour les datations. Donc, vous voyez là, c'est les fameux chevaux de la grotte Chauvet. Donc, tout d'abord, les images dans les grottes sont considérées, et ceci dès le début, comme de l'art. C'est-à-dire, premièrement, donc autour de 1901, comme l'expression d'une pulsion esthétique éternelle et éminemment humaine. Donc, la théorie, une des premières théories qui a été lancée, c'était la théorie de l'art pour l'art. Donc, l'homme se rendait dans les cavernes parce qu'il avait... Il avait beaucoup de temps, et il aimait faire de belles choses, Donc, il s'est rendu à 1800 mètres au fond de la grotte de Niu pour y peindre, parce que c'était bon. Et aussi, c'est important de voir qu'aussi, c'est conceptualisé comme un art réaliste, c'est-à-dire comme des images mimétiques permettant de tirer un tas de conclusions sur la faune existant hors des grottes à l'époque de la conception des images. Et donc, ainsi sont nées les théories autour de 1910 de l'art paléolithique comme un art utilitaire, et parmi lesquelles la magie de chasse qui a été formulée le premier par l'abbé Henri Breuil. Cette magie de chasse a été la plus tenace. Et donc vous comprenez bien que l'idée était que la raison de peindre dans les grottes, c'était pas pour le plaisir esthétique seulement, mais aussi pour magiquement donner une sorte de prise sur les animaux qui étaient peints pour qu'on puisse les manger le lendemain. Donc c'était là l'idée de la magie de chasse. Et puis, à côté de cette magie de chasse, il y avait des différentes théories qui ont évoqué le totémisme, qui était si populaire au début du siècle dernier. Je l'illustre ici avec tout ce troupeau de lions qui sont donc censés de représenter un clan, et un autre clan ici de bisons. Et il y a une sorte d'interaction supposée donc, entre ces deux clans qui se sont représentés par des lions et par des bisons. Donc c'est ce genre d'idée qu'on a avec une interprétation totémiste du matériel. Mais donc après, on est là donc la période entre 1910 jusqu'au 45 autour de ça. Parce qu'après la guerre, il y a un changement de focalisation dans la recherche. Avec Annette Lormy-Empereur, que j'ai mentionné il y a quelques secondes, et aussi, et surtout, André Leroy-Gourhan, le structuralisme entre dans les grottes. Le structuralisme est entré dans les grottes avec pas mal d'inspiration de Max Raphael, le théoricien de l'art marxiste, qui était le premier à suggérer qu'il fallait considérer les images non comme des images isolées, mais comme des compositions d'ensemble. Et donc, ce que j'essaie de montrer avec cette image-là, c'est que il y a évidemment une idée de tout, qu'on doit voir tout ça ensemble. Et on peut même voir qu'il y a peut-être même des raclages qui ont été faits là avant qu'on a peint pour vraiment donner une bonne surface pour les peintures. Mais je suis pas 100% sûr que c'est le fait ici, mais on voit quand même qu'il y a une composition dans la grotte. Et le fait de voir ça, c'est le structuralisme de André Leroy-Gourhan et d'Armin Empereur qu'elle a emporté dans les études sur les grottes. Et donc, à partir de cet modèle structuraliste, on a commencé de regarder l'art pariétal comme une langue. Et ici, c'est un signe, comme on dit. Normalement, on fait la distinction entre les images et les signes. Donc ça, c'est un exemple que vous voyez là d'un signe. Ce signe vient de l'Altamira, en fait. Et donc on a commencé à regarder le matériel qu'on trouve dans les grottes, toutes les images, tout ce qu'on trouve, comme structuré par des oppositions binaires. Donc le mâle, le féminin, représenté par... Annette Lormy-Empereur, le roi Gourhan avait des idées au niveau structurel qui étaient pareilles, mais au niveau de détails qui étaient opposés un peu. Donc, je ne me souviens plus lequel, disait que les chevaux, les bouquetins, les cygnes allongés étaient plutôt mâles. Et les bisons, les aurochs et les cygnes rondes étaient féminins. Je crois que c'était André Le Ragoran et puis Annette Lamarine a pris l'idée inverse. Mais enfin, l'important ici, c'est que le principe d'organisation de l'art autour d'une opposition binaire, c'est ça qui compte. Et donc, avec le déclin général du structuralisme, on voit naître un refus d'interprétation des images dans les grottes. Et on passe par une phase de positivisme pur et dur. Donc, un classement seulement de ce qu'on voit dans les grottes. Et ici, on a une grotte, on a trois bisons, deux aurochs, une biche. Donc, ce genre de description assez neutre qui prend la place d'idée d'une interprétation. Mais en 1996, Jean Clote et David Lewis Williams, deux chercheurs très connus, très respectés et sérieux, mettent fin à cette phase et publient Les chamans de la préhistoire. Les chamans dans la préhistoire, pardon. Et dans ce livre, ils capitalisent sur toutes les théories précédentes et présentent le chamanisme comme une solution globale des problèmes de signification, d'abord de l'art pariétal dans les grottes paléolithiques, puis de rock art en général. Et donc, je vais vous dire, donc, il présente une théorie où il regarde le paroi comme une sorte de membrane qui sépare notre monde, le monde des esprits. L'argument, c'est qu'on voit ici, par exemple, deux animaux qui surgissent de noir, qui surgissent de l'autre côté, d'un autre monde, ou ici même des animaux qui sont en train de pénétrer cette membrane qui est la paroi de la grotte. Et ici, on a un des chevals de Perche-Merle avec ses fameuses mains. Et donc est censé être prise en charge par un être humain comme ça. Et ils ont utilisé un argument très populaire en anthropologie, c'est l'argument d'analogie. Et ce que vous voyez ici, c'est que c'est donc le sorcier de la grotte de Trois Frères. Et ici, c'est une représentation qui a été faite en 18e siècle par un scientifique français, j'oubliais le nom, pardon, mais en Sibérie, d'un chaman en Sibérie. Et ils ont montré qu'il y a une ressemblance assez forte entre ces deux images. Il faut savoir aussi que ce que vous voyez là, c'est une représentation qui a été faite par Henri Breuil. Et quand on voit cette figure en réalité, on a du mal à le faire. Donc, il a ajouté un peu en tant qu'artiste qu'il était. Il a clarifié les choses un peu. Donc, c'est moins ressemblant au chaman en réalité. Mais en fait, l'argumentation de Clote et Whitney Williams, c'est que le chamanisme, c'est l'explication générale de tout ce qu'on voit dans les grottes. Mais les réactions de ce livre ont été mixtes, pour ne pas dire trop. Et après, les criticismes très, très précis et convaincants, en fait, selon moi, critiques ont été concentrées surtout sur la base neurobiologique supposée de la théorie du chamanisme. Ces critiques ont été lancées d'abord par des chercheurs comme Paul Bann en Angleterre, mais aussi par Michel Delorme-Blanchet ici en France. Et donc, il faut constater que le chamanisme est pour la plupart abandonné comme explication générale, au moins dans le domaine des recherches sur les images dans les grottes. Je viens maintenant à mon conclusion. Alors, qu'est-ce que nous voyons-nous dans les grottes ? Déjà, l'appellation art pour parler de ces images, c'est trop dire. C'est l'effet de les inscrire dans une compréhension spécifique et contemporaine de comment on doit comprendre, aborder et traiter ces traces peintes. De même, si on les appelle des représentations ou des figures, l'on présuppose qu'ils sont vraiment des icônes, qu'ils pointent hors d'eux-mêmes vers une réalité, en place d'être quelque chose qui est peut-être suffisant pour elle-même, ou une sorte de référence qui ne pointe pas ailleurs. Mais nous autres chercheurs, comme d'ailleurs tout le monde, sommes irrévocablement prises dans nos langages, nos concepts, nos pratiques, nos préjugés contemporains en plus, dans ce que nous essayons d'interpréter et comprendre. Et quand nous essayons d'interpréter et comprendre ce que nous voyons. Et en plus, ces visions elles-mêmes dépendent, comme Fleck l'enseigne, fortement de nos propres capacités à voir, c'est-à-dire qu'elles sont produites par nos attentes, par nos procédés conceptuels et par nos pratiques intellectuelles et corporelles, donc par les formes symboliques, par la doxa, par les styles de pensée qui nous enveloppent. En face des images dans les grottes, il faut donc procéder autrement que par la recherche d'un contexte ou de sa intention à jamais perdue. D'abord parce qu'un tel contexte ou de telles intentions n'a jamais été pressant pour garantir le sens des peintures ou des signes. Il ne faut pas chercher à trouver les significations originelles ou originaires. Une telle recherche ne posera pas les bonnes questions. Elle ne nous aidera pas à comprendre ce que nous voyons dans les grottes. Mais, et il faut le souligner ici, une telle démarche n'entraîne pas un relativisme fortuit, un laisser-faire épistémique. Par contre, toutes les connaissances que nous possédons aujourd'hui de l'époque paléolithique, de son climat, de sa faune, ainsi que tout ce que nous savons sur notre situation épistémologique, sur le fonctionnement des signes et sur l'interprétation, font partie des conditions épistémiques et factuelles qui nous donnent appui et nous limitent au même temps. Ces conditions constituent la seule fondation possible pour notre reconstruction tentative des principes centraux de cette forme symbolique qui organisait la perception du monde pour nos ancêtres paléolithiques. Et par conséquent, avec un clin d'œil à Protagoras, la mesure de notre compréhension ou de notre savoir ne pourra jamais être comment ou quoi les images étaient une fois, mais seulement comment nous pouvons construire des perceptions, des interprétations et des descriptions de notre passé lointain qui sont scientifiquement valables aujourd'hui, c'est-à-dire acceptées comme telles par les collectifs de pensée scientifique auxquels nous appartenons et qui ensemble forment la communauté scientifique avec tous ses pratiques, préjugés et intérêts, etc. Donc, pour conclure, j'espère que j'ai montré qu'une approche doxologique puisse élucider, au moins un peu, et la naissance et le développement de l'étude de l'art paléolithique, de l'art pariétal du paléolithique supérieur. Mais j'espère aussi avoir montré aujourd'hui, comme il y a une semaine, qu'une approche doxologique va plus loin que ça, qu'elle pourra en effet élucider nos manières humaines de créer du sens, d'établir des faits et de construire des doxaï. Et comme il n'y a pas d'or doxa, ni plus qu'il y aurait une or grotte pour nous autres humains, j'aimerais finir par une très belle citation de Cornelius Castroriadis, où tout cela est déjà dit. Penser n'est pas sortir de la caverne, ni remplacer l'incertitude des ombres par des contours tranchés des choses mêmes, la lueur vacillante d'une flamme par la lumière du vrai soleil. C'est entrer dans le labyrinthe, plus exactement faire être et apparaître, un labyrinthe alors qu'on aurait pu rester étendu parmi les fleurs, faisant face au ciel. C'est de se perdre dans des galeries qui n'existent que parce que nous les creusons inlassablement, tourner en rond au fond d'un cul-de-sac dont l'accès serait fermé derrière nos pas, jusqu'à ce que cette rotation ouvre inexplicablement des fissures praticables dans la paroi. Assurément, le mythe voulait signifier quelque chose d'important lorsqu'il faisait du labyrinthe l'œuvre de Dédale, un homme. Donc, merci beaucoup. Et donc,